Bonjour et bienvenue dans cette 7e émission de Lire et écrire à Studio Zef. Je vais commencer en vous parlant d'atelier d'écriture, puis je rendrai hommage à Jean-François Parot qui nous a quittés le 23 mai. Enfin, je vous donnerai une consigne d'écriture pour ceux qui veulent s'exercer chez eux. Comme d'habitude, une adresse mail est ouverte pour recevoir vos textes que je rappelle ici, lire et écrire tout attaché, @studiozef.fr. L'atelier d'écriture, selon moi, se doit d'être avant tout ludique. C'est une méthode pédagogique adaptée à la fois pour des gens épris d'écriture, mais aussi pour des populations ayant eu des difficultés avec celle-ci. Étrangers, étudiants dans le domaine technique, personnes bloquées par leurs échecs scolaires, etc. Même en s'appuyant sur un exemple littéraire, on peut s'amuser avec les mots. Il existe, comme je l'ai dit auparavant, une multitude de jeux, et je viens par l'intermédiaire d'une amie, Annie, découvrir un jeu de caviardage sur un texte consistant à supprimer des mots contenant une lettre, par exemple le O, en le remplaçant par un mot n'ayant pas cette lettre. Pour rendre amusant cet exercice, prendre un extrait d'un grand classique, exemple Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, qui deviendra une satire presque un sacrilège, en y introduisant des mots de notre époque, par exemple. L'intérêt est ici d'étendre son vocabulaire par des synonymes ou des métaphores pour éviter la lettre interdite. Thank you. Comme je le disais, le 23 mai, Jean-François Parot nous a quittés en laissant derrière lui l'histoire de Nicolas Le Floch en suspens. Tout d'abord, quelques mots sur l'auteur. Il était né le 27 juin 1946 à Paris. Son grand-père et sa mère travaillaient dans l'art du cinéma. Passionné d'histoire, il fait un mémoire sur le XVIIIe siècle ainsi que de l'ethnologie pour devenir spécialiste des momies égyptiennes. Ayant réussi le concours d'entrée aux affaires étrangères, il devient diplomate et ambassadeur. Au cours d'un des hivers passés à Sofia, il décide d'écrire un roman dont l'action se situe au XVIIIe siècle, de Louis XV à Louis XVI. Il dira au cours d'une interview qu'il a conçu le personnage principal, Nicolas Le Floch, pour qu'il soit attachant et humaniste. Aujourd'hui, sont édités 14 romans policiers, dont 13 en édition de poche, dans la collection 10-18 Grand Détective. Ces romans sont conçus en trois parties. L'histoire des personnages fictifs, l'histoire de l'époque avec de nombreuses références historiques et des personnages ayant existé, Sartine, Le Noir, la famille royale, etc. Et une enquête qui sera résolue dans chaque tome. Il est donc recommandé pour ceux qui voudraient le lire de commencer par L'énigme des Blancs Manteaux, numéro 3260 en 10-18, tous les titres étant encore édités. Le personnage central est Nicolas Le Floch, noble breton, abandonné puis reconnu par son père, qui deviendra commissaire aux affaires extraordinaires sous Louis XV et commissaire du Châtelet sous Louis XVI. Je ne dirai que cela pour laisser au lecteur l'envie d'en savoir plus au cours des 14 épisodes de la série. Outre la description précise du Paris et des événements de l'époque, les mots tirés de dictionnaires du XVIIIe donnent un style particulier au dialogue. Les personnages représentent des courants d'idées qui traversent le siècle pour aboutir à la Révolution. Ainsi, Nicolas, redevable du roi, respecte la monarchie, et son ami Bourdeau, inspecteur, est profondément républicain. Mais son mentor, Monsieur Noblecourt, est lui dans une loge maçonnique proche des philosophes des Lumières. Samson et Sémagdus représentent la montée des sciences dans la vie courante et les enquêtes. Une autre particularité remarquable des romans est la description à travers une habitude demandée par des personnages gourmands et bon vivants que leurs hôtes décrivent précisément à chaque repas tous les plats de leur composition, de leur cuisson à leur présentation. Et ceci tiré de vraies recettes de l'époque. Nous sommes nombreux, d'excite les réseaux sociaux, à rester sur notre faim, sur la suite qu'aurait pu vivre Nicolas Le Floch, la révolution approchant. Aurait-il fui comme Sartine en Espagne? Aurait-il fait tomber des têtes avec Bourdeau? Aurait-il, en tant que Breton, combattu la République avec la Dame de Clisson? Serait-il revenu au domaine pour le gérer? Nous ne le saurons jamais. Mais il me reste à remercier Jean-François Parot pour ses romans historiques qui font écho à notre période sur bien des points. Je les ai dévorés avec passion et je vous conseille à tous de les lire avec bonheur. Quelques passages tirés au hasard des 13 romans que je possède. Extrait de L'honneur de Sartine. Et alors, qu'a constaté le lieutenant général de police. Que c'était un faux et du meilleur aloi. Que je n'étais qu'à moitié fautif de m'y être laissé prendre. Une vraie bride à veau. Il tendit le papier à Nicolas qui l'examina avec soin. En effet, on pouvait s'y tromper. Un faux furieusement bien forgé. Rabouine, jusque-là tout à son récit, prit soudain conscience du carnage environnant, éclairé désormais par la lumière vacillante des torches. Quelle boucherie ! C'est pire que rue du Pied de Bœuf un jour d'abattage. Vous ne l'avez pas raté. J'ai manqué cela. Point du tout. Que vas-tu imaginer ? Nous avons découvert ceci en l'état, commenta Bourdeau, que l'ébaudissement de la mouche amusait. Allons, poursuivit Nicolas. Cesse de bâiller aux corneilles et considère ce qu'il aime. Dis-moi si, par hasard, tu le reconnaîtrais. Rabouine s'approcha du corps étendu, se pencha, le morgua sans... avec attention et laissa échapper une exclamation de surprise. Mais foi, c'est bien ce crapoussin-là qui me l'a conté si belle hier soir. Bien estourbi. En voici donc une autre. Il cracha de côté. Un tumulte marquait l'arrivée de Naganda. Aussitôt environné des exempts menaçants, Nicolas calma l'émotion, fit faire silence et donna ses instructions. Agissons au plus vite et sans barguigner. Rabouine, au troisième, tu trouveras le corps de Triburce, valet de Monsieur Chamberlain. Il y a apparence qu'il soit mort étouffé. Comment ? L'ouverture nous l'apprendra sans doute. Organise son transfert à la base Géole, ainsi que celui de ton homme qui, pour ta gouverne, appartenait à Sartine. On lui fera un compliment. Il sait les choisir de bonne aloi. Ensuite, plie portée à Sec-Macjus et Sanson. Scellé, posé sur la porte de l'hôtel et sentinelle en permanence. Il faut prendre soin également de ce pauvre bouc de portier qui a été assommé. Nous disposons de quelques jours. La famille est en Champagne. Cela nous laisse le loisir de démêler tout cela. Encore que... Et Sartine, demanda Bourdeau. Son attitude sera édifiante lorsqu'il apprendra le récit de cette nuit. Pour moi, comme à l'accoutumée, je monterai à la tranchée et lui dirai son fait. On ne peut tirer à U et à Dia sans dégâts. Et c'est affaire déplorée d'avance que celle que l'on traite ainsi, détruisant d'une main ce que l'on fait de l'autre. Extrait du sang des farines. Les soupers se succédaient au dîner plus ou moins réussi. Ils conservèrent le souvenir ému d'une ripaille dans l'auberge du Lion d'Or à Vitry-le-François. Des andouillettes de Troyes grillées, toutes luisantes de leur graisse, les avaient mis en bouche avant d'entamer un pâté de lapin dont l'hôtesse expliqua qu'elle en faisait mariner les morceaux dans le vin rouge et l'alcool de Quetsch durant plusieurs jours. Son arôme, si parfumé, venait de n'être point désossé. Le tout était longuement cuit dans une pâte au sein doux, dont le centre, tel un nombril cheminé, selon ses propres termes, laissait échapper la vapeur de cuisson. Une terrine de hure complétait ce régal. Un fromage cendré du cru avait ensuite exalté la fraîche alacrité d'un vin nature de Champagne. Ils tentèrent d'obtenir le secret de sa fabrication tant ces délices corsées les séduisaient en vain. L'hôtesse précisa seulement que ce fromage était lavé à grande eau avec une brosse avant d'être servi, ce qui accrut d'autant le mystère. Pour couronner le festin, on apporta un plat de roussette, losange de pâte frite et sucrée, gonflé et léger. C'est Macgus déclara qu'ils accompagneraient à merveille une omelette de sa façon. Il bondit vers l'âtre, saisit une vingtaine d'œufs, prétendit que c'était bonne proportion pour quatre appétits honnêtes, et en un clin d'œil, les cassa et les sépara les jaunes des blancs. Les premiers furent mélangés à la fourchette avec du sucre, et les seconds montés en neige au fouet. Les deux masses délicatement incorporées l'une à l'autre avaient été versées avec mille précautions dans une gigantesque poêle où grésillait un beurre blond. Sous l'effet de la chaleur et aux yeux étonnés de l'assistance, les œufs ainsi préparés avaient gonflé de manière prodigieuse. Ces Magdus sucraient d'abondance, puis sortant de sa poitrine un flacon de vieux rhum, il en versa une large partie dans un poêlon pour le chauffer. Il fit glisser l'omelette sur un plat dans une odeur de caramel moussant, arrosa avec l'alcool qu'il enflamma en approchant une brindille allumée. La clarté bleuâtre illumina les visages réjouis des convives. Le croustillant des roussettes s'harmonisait avec la douceur suave et relevée par le rhum du soufflé. On entendit pendant un long moment que les soupirs de plaisir des quatre voyageurs.
Extrait de l'enquête russe. Au sortir du dauphin couronné, et alors que plusieurs carrosses blasonnées approchaient, les deux policiers s'avisèrent de l'heure déjà avancée et décidèrent de rejoindre le tripot de la mère Morel pour faire le point de ce qu'ils venaient d'apprendre tout en dînant. Aux boucheries Saint-Germain, leur vieille hôtesse les accueillit, désormais appuyée sur deux cannes. Elle n'en dirigeait pas moins sa maison avec une autorité habituelle, toute voûtée et cabossée qu'elle était. « Alors, mère Morel, de quelle gâterie nous pouvez-vous régaler aujourd'hui ?»« Eh eh, des mignardises que vous goûtez, je le crois. Pour débuter, que diriez-vous d'une flopée de petits attelés de rognons de conin ?»« De la tendresse et de la fleur de thym fraîche par-dessus. » Elle baissa la voix. « Cela nourrira le pot d'eau bourguignonne que je vous servirai pour vous rafraîchir par ce beau temps chaud. » Bien, et ensuite, après ces peccadilles, après le grand choix au gré du marché, comme d'usage, pied de veau et tétine de vache à lancerisée. Lancerisée. Les fruits sont encore rares, le printemps a été tardif et les gelées ravageuses. C'est point le fruit, c'est la manière. Les as-tu bien traités, ces deux abats ? Mes enfants, vous me connaissez à l'accoutumée. Pied et tétine longuement mitonnés dans un bouillon triple, enrichi de racines et d'eau sa moelle. Ensuite, je découpe la tétine en tranches et les pieds désossés en morceaux. Il faut prendre garde à ne point trop ramollir la viande, car ensuite, je la mets à tremper dans un mélange de vinaigre, sel, poivre, un paquet d'herbes, du limon, du laurier. Je prépare une pâte à baigner. Chaque morceau y est plongé, puis frit au lard fondu. Voilà, vous coûterez cela, j'en suis assuré. J'oubliais. Au moment de servir, persilla des tranches de limon. J'ajouterai un plat de radis nouveau avec un quarteron de beurre, de vendre le meilleur. Tout cela m'appète furieusement, dit Bourdeau, l'œil émerillonné de gourmandise. Tu nous donnes des deux, pied et tétine. Ce préalable capital réglé, dit Nicolas, résumons-nous. Comme d'habitude, la conversation avec notre Paulet s'est révélée fructueuse. Où le hasard nous multiplie ses nazardes, où nous sommes en présence d'une série de coïncidences si étranges et si détournées que nous sommes à brandiller pour en tirer des leçons.
J'avais cru comme vous.
un extrait de la pyramide de glace. Il les entraîna au plus près dans leur repère favori, rue du Pied-de-Bœuf. L'hôte, comme Bourdeau natif du Chinonnet, les accueillit joyeusement et les conduisit à leur table habituelle, leur apportant aussitôt un pichet de vin et des verres. Après l'échange de nouvelles des familles et amis restés au pays, Bourdeau s'enquit avec gourmandise de ce que l'hôte pouvait leur proposer. « Du simple, du gras et du réchauffant, » dit le tavernier en faisant avec sa bouche un bruit de clapot qui se voulait engageant. « J'ai des petits jarrets de porc. »« Voilà qui nous convient, » dit ces MacJus. « Point trop petit, j'espère. Et comment les traites-tu, ces mignons ?»« Dessalés, puis des heures à petit feu, dans un bon bouillon sur le coin du potager, avec des épices. »« Hélas, point de racines. Il n'y en a pas, vu le temps qui nous accable. » Je les place une fois bien refroidis et affermis dans une large terrine noyée de bière emmiellée, avec force poivre, grains de genièvre et une poignée de cumin. Le plat, non couvert, est exposé au feu de la cheminée, lentement, afin qu'il caramélise et préserve ainsi le moelleux de la viande. Ah, l'eau m'en vient à la bouche, ta description ne manque pas de ragoût, et avec cela, que sers-tu ? De bons gros haricots de Soissons, de quoi par ce temps tenir au corps, surtout sans les faire gonfler dans l'eau. Cela ne sert à rien et ne fait que les abîmer. Cuit à la gentillette, sans sel, avec un oignon, après la deuxième eau. Enfin, une louche de Saint-Doux sur le tard de la cuisson, avec le sel pour les nourrir. Ce programme mit en joie les trois amis qui se réchauffaient au feu de la cheminée. C'est effrayant, dit Nicolas, la température est remontée, mais ce froid humide est pire que le froid sec que nous avons supporté ces derniers mois. Froid sec, tu oublies les chutes de neige. Nicolas n'a pas tort, dit Cémacus. La neige assèche l'atmosphère. Nous avons discuté de la question à l'Académie des sciences. Nous auriez-vous scellé que vous en faites partie ? Que non, Nicolas. Je n'en suis qu'un modeste correspondant. C'est ainsi que je prends part à certaines réunions. Tenez, à la fin de l'année, j'ai été convié à Chaillot, chez Benjamin Franklin, savant, philosophe et plénipotentiaire du nouvel État américain. « Oh !» s'écria Bourdeau, « ce n'est point l'ami de Nicolas. Ne le voyez-vous pas changer de visage à l'énoncé de ce nom ? Sachez que Naganda lui a révélé une face obscure de ce personnage si à la mode. Une certaine expédition guerrière et massacreuse contre nos alliés indiens lors de l'avant-dernière guerre avec l'Angleterre, à l'issue de laquelle nous avons abandonné la Nouvelle-France. Il n'y a pas que cela, dit Nicolas sombrement. Nous avons éprouvé en d'autres circonstances son caractère double. Il y a du pharisien chez cet homme-là. Il m'a paru, reprit Cémacus, fort bonhomme, disert, savant et humaniste féru des Lumières. Au point de faire massacrer femmes et enfants, bougonna Nicolas. J'ai conversé avec lui en compagnie d'un autre invité, un Vénitien des plus érudits dont le bagou m'a sidéré. Comment se nomme-t-il ? Ma mémoire n'est pas plus si agile qu'autrefois. Barnova, Carmona, quelque chose d'approchant. Ne serait-ce pas Casanova ? Voilà. Le connaîtriez-vous par hasard ? C'est un souvenir de mes débuts aux côtés du commissaire Lardin. J'avais participé à son arrestation. Choiseul, le protégé, et un de ses dupes avait payé sa caution. Il était à l'époque accusé d'avoir démenti le montant d'une lettre de change. Cet homme est d'une prodigieuse culture. Il se déclare grand lecteur de Pic de la Mirandole et disciple de Paracelse. Il paraît féru de chimie, d'occultisme et d'alchimie. Il nous a décrit de mystérieux grimoires emplis de recettes et de rituels qui, selon lui, permettent de découvrir les trésors cachés et d'avoir emprise sur les esprits de tous ordres. Et qu'en disait Franklin ? Rien, il souriait benoîtement. Ah, le bon apôtre ! Quant à Casanova, croyez-moi, Guillaume, si j'en juge par les dossiers qu'il concerne et que j'ai par la suite consulté, de ses pratiques, il a tiré souvent profit. Ayant escroqué une vieille folle, d'ailleurs riche à millions, il a été banni du royaume par une lettre de cachet de 1767. Rassurez-vous, pourvu d'un passeport de Choiseul qui continuait à le protéger. Il est vraisemblable qu'il s'agisse d'un espion qui mange à tous les râteliers et se trouve affidé à des organisations maçonnes. Cémacus ne relèvera pas le propos de Bourdeau. Un extrait de Le Crime de l'hôtel Saint-Florentin. Tout s'était figé dans la salle où, un moment auparavant, régnait la plus grande allégresse. Ce fut Nicolas qui rompit le silence. « Beaucoup de crimes se commettent dans une ville, » dit-il d'une voix indécise. « Une coïncidence est toujours possible. » « Cela est peu probable. Je me suis porté à la basse géole où le corps avait été, comme il se doit, déposé. J'ai pu procéder aux observations d'usage, et Samson, de retour pour une question à Brodequin, a bien voulu m'aider de son art. Après une longue réflexion, il a disparu pour revenir un instant plus tard avec un carteron de plâtre. Prestement, il a préparé une pâte et s'est penché sur le cadavre de l'hôtel de la rue Saint-Florentin. Marion poussa un cri d'effroi. « Catherine, » dit Noblecourt, « je crois qu'il est temps que Marion se repose. Elle s'est pas trop démenée aujourd'hui. Ses soirées ne sont plus de son âge, juste bonnes pour de jeunes hommes comme moi. Allez, que la nuit vous soit douce. » J'en ai vu d'autres sur les champs de bataille, sans piailler, gronda Catherine qui brûlait d'entendre la suite du récit de Bourdeau. Mais elle obéit et entraîna Marion vers ses quartiers. Elle fut vite de retour. « Pourquoi s'est intéressé au cadavre de Marguerite Pindron ?» demanda Nicolas. « Que lui voulait-il » Avec son plâtre, il a pris l'empreinte de la blessure au cou, comme pour les masques mortuaires. « Ne sont-ils pas d'ordinaire moulés en cire jaune ?» Noblecourt intervint en souriant avec malice. Tous deux avaient raison. « Avant que l'achat d'une charge nous agrège magnifiquement à la noblesse de robe, mes aïeux étaient maîtres mouleurs de cire. » Il y eut un cri général de surprise. « Je comprends mieux votre goût pour les théâtres de corruption, de votre cabinet de curiosité, dit Nicolas. Un mien ancêtre aida à la prise du masque de roi Henri II en 1559, après que le pauvre sire, blessé par la lance de Montgomery, en eut perdu la vie. Il en conservait un souvenir effrayant, vu que l'objet, moulé quelques instants après la mort, révélait avec une cruelle évidence toute la souffrance qui l'avait précédée. J'en reviens à mon propos. Pour opérer, il faut user d'épaisses bandes de tissu qui entourent, en le serrant, l'ovale du visage, du crâne au menton. On verse la pâte de plâtre qui, une fois solidifiée, donne un moule d'étrait duquel on peut tirer un exemplaire en cire. « Que fait-on de ces masques ? Ah, messieurs, ignorez-vous qu'on expose le corps de nos rois ? Sauf pour le dernier, en raison de sa contagion de la petite vérole. Cependant, en réalité, c'est un mannequin revêtu du masque de cire et des insignes royaux à qui le peuple rend hommage en défilant devant lui. Quant à l'empreinte, elle est ensuite conservée à Saint-Denis et vous pouvez en admirer la collection. Mais nous nous égarons. Il y a toujours quelque chose à apprendre, monsieur, de votre expérience. » Noblecourt hocha la tête tout en raflant sur l'assiette que Catherine avait disposée sur la table quelques pâtes de coing fraîchement démoulées et déposées sur de petits losanges de pain azyme. Il profite que Marion n'est pas là, marmonna Catherine. Revenons à nos cadavres, dit Bourdeau. L'empreinte prise sur celui de Marguerite Samson l'a reportée sur la blessure de l'inconnu de la rue Glatigny. Le doute n'était pas possible. Rappelez-vous, Nicolas, cet horrible entonnoir, l'empreinte épouse presque exactement, offrant d'identiques déchirures et d'écrasement des chairs, et l'impression d'une main informe. Autre chose, fit Nicolas, oui. La victime ressemble fort à Marguerite Pindron. Je veux dire, c'est le même type de jeune femme, même si les deux peuvent errer par certains détails. Intéressante remarque. A-t-on idée du moment de la mort ? Il est essentiel de le déterminer. Nous avons déjà beaucoup de suspects pour le crime de l'hôtel Saint-Florentin. Maintenant, voilà un autre meurtre de même procédé avec ce détail incongru de ressemblance des victimes. Il faut voir qui des suspects possibles du premier crime pourrait être aussi l'auteur présumé du second. Savoir l'heure du crime est essentiel pour la mettre en relation avec les emplois du temps des suspects. Nous voici arrivés à la consigne d'écriture. Souvenez-vous de ces repas de famille, d'un repas dans un lieu extraordinaire au cours de vacances, de vos études, de vos amours. Décrivez-le avec le plus de précision possible à la manière de Jean-François Parot. Toujours possible, évidemment, de me l'envoyer sur lire-et-écrire@studiosef.fr. Le mois de juin s'annonce orageux, c'est l'occasion de s'essayer à l'écriture créative. À bientôt, on se retrouve en deuxième et quatrième lundi de chaque mois de 14h à 15h sur les ondes de Studiosef 91.1 en FM ou en podcast sur le site de studiosef.fr.